Et enfin, c'était les Irlandais de My Bloody Valentine avec la dernière chanson de leur premier album, I Can't See It But I Can't Feel It.
Alors là, je ne fais que lancer le jeu. Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence, aujourd'hui mercredi 30 novembre 2022, émission numéro 279, Christophe Rollin au micro. Francis n'est pas là, il ne devrait pas être là aujourd'hui, donc pas de chronique, l'égoïsme se partage. En revanche, il y a bien une invitée, Claire Iselin, pour parler de l'exposition qui se tient au musée et théâtre romain Luc Dunhomme. Écoutez bien le nom de l'exposition, Spectaculaire. Le divertissement chez les Romains. Cette exposition, j'en parle depuis quelques temps, elle a commencé le 6 octobre dernier. Elle va avoir une belle durée jusqu'au dimanche 11 juin 2023 prochain. Et nous allons en parler pendant toute cette heure. Et c'est très bien. Il y a vraiment beaucoup de choses à en dire. Le lieu, c'est donc à Fourvière. Et la matière, vous allez voir que ça va bien occuper toute cette heure, qui va durer jusqu'à 15h, comme tous les mercredis. Et nous allons commencer en musique. Nous allons commencer en hommage au titre de cette exposition, pas tant au titre de l'émission. Nous allons écouter de l'album Oracular Spectacular de MGMT, album des années 90, 2000 plutôt. Écoutons le titre Time to Pretend. Et ensuite, nous questionnerons la directrice sur son parcours et puis nous essaierons de voir quel parcours faire à l'intérieur de l'exposition. Le divertissement chez les Romains, plein de choses à dire. C'est très divertissant, mais c'est aussi très stimulant, très intéressant, très enrichissant. Commençons avec Time to Pretend des MGMT et vous nous écoutez, c'est très bien, sur le 102.9 de la bande FM si vous le faites à Lyon, et si c'est sur internet, c'est le 102, c'est le radiocanu.org. Et ça se termine de manière un peu abrupte. Ce titre, Time to Pretend, de MGMT, album oraculaire spectaculaire. Pour parler de l'exposition qui se tient au musée, je dis musée et théâtre romain, l'exposition est bien seulement au musée. Vous avez manqué, auditeur, auditrice, peut-être le festival qui avait lieu en octobre dernier. Donc cette exposition qui se tient au musée Luc Dunhomme, sur la colline de Fourvière, s'appelle Spectaculaire. Sous-titre ou précision, le divertissement chez les Romains. Et donc pour en parler, c'est la directrice elle-même qui vient. Enfin, il était question de se voir pour Enquête de pouvoir. Ça a été un peu difficile, mais il est très bien qu'on puisse enfin se voir pour cette nouvelle exposition. Et donc première question, avant d'évoquer plus précisément l'exposition, pourriez-vous nous dire, Claire Iselin, un peu quel a été votre parcours avant de prendre la tête, ou même d'ailleurs comment êtes-vous venu à prendre la tête de ce complexe, à la fois donc le musée et les théâtres romains. Il y a eu, je crois, un master d'archéologie, un peu de Compiègne. Je vous en prie, Claire Iselin. D'ailleurs, je n'ai même pas dit bonjour, Claire.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous avez donc fait auparavant?
Voilà, donc mon parcours, alors moi je suis normande d'origine, hein, pas
mais,
normande,
mais c'est très bien.
Jeune camp, voilà. je ne vous apporte pas le mauvais temps, je vous rassure. Donc j'ai commencé des études d'histoire en fait à Caen, et puis j'ai rejoint ensuite Paris pour y faire l'école du Louvre. Et puis un master d'archéologie orientale, hein, je suis plutôt orientaliste en fait, spécialité. Donc tout ce qui est Mésopotamie, 3e millénaire avant notre ère, la naissance de l'écriture, de l'agriculture, voilà. C'est
Gilgamesh n'a pas de secret pour vous.
Voilà, Gilgamesh, ce genre de mythe, effectivement. Voilà, une grosse passion en fait pour l'archéologie est née notamment pendant ces études, et puis j'ai pu commencer à l'expérimenter quand j'ai commencé à travailler en fait au musée du Louvre comme stagiaire, contractuelle, vacataire, voilà, pendant 5 ans au département d'archéologie orientale, où j'ai pu mener des travaux de refonte de salles, de musées. Donc déjà il y avait un fort attrait pour les musées, et puis aussi des fouilles archéologiques en Syrie, hein, notamment. Et par la suite, donc, j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine que j'ai eu donc à la fin de l'année 2007, 18 mois de formation, dont 5 mois passés à Lyon déjà. À ce moment-là, à l'inventaire en fait du patrimoine lyonnais et puis de Rhône-Alpes. Passionnante expérience qui m'a permis d'adorer en fait le territoire.
Étiez-vous sur un site particulier ou...
Alors j'étais à ce moment-là à la direction régionale des affaires culturelles, hein, donc sur les bords de Saône, et on sillonnait tout le territoire, donc aussi bien des immeubles lyonnais qui allaient de la plage des Jacobins jusqu'à la Guillotière, mais aussi en passant par des, voilà, je me souviens très bien de Montbrison par exemple, ou voilà, des cités balnéaires.
Dans la Loire.
Alors on est allé vraiment un petit peu partout, puisqu'en fait on couvrait à ce moment-là toute la région.
Et donc un premier contact avec une région qui vous a déjà plu, oui.
Enfin, oui, c'est... un vrai coup de cœur. En fait, à l'époque, je me disais que ça me plairait bien de venir y vivre, d'y travailler, mais je voyais pas encore très bien, voilà, dans quel domaine en particulier. J'avais évidemment visité le musée gallo-romain à ce moment-là, qui avait cette ancienne appellation, le musée gallo-romain de Fourvière. J'avais beaucoup aimé. Et puis ensuite, la vie a fait que j'ai commencé donc mon premier poste en tant que conservatrice du patrimoine. C'était directrice des musées en fait de la ville de Compiègne dans l'Oise, hein, donc juste tout près de Paris. Voilà, une expérience très riche, plusieurs musées, qui est la figurine historique, en passant par un musée de collectionneurs, des fonds gallo-romains, hein, très intéressant à gérer, beaucoup d'expérience, voilà, professionnelle, et l'envie ensuite, au bout de 9 ans, 9 ans et demi, d'évoluer, et à ce moment-là, s'est présenté ce poste de direction de l'Ogdono Musée Théâtre Romain, pour lequel j'ai travaillé énormément pour l'avoir. J'étais très très motivée, parce que c'est un musée, des sites en fait qui ont un très fort potentiel de développement, une histoire fabuleuse, les collections sont extraordinaires, la situation géographique également, et puis une équipe aussi très forte en fait, hein, avec beaucoup d'attachement en fait à ce site. Donc j'étais ravie de pouvoir prendre la direction de ce musée, voilà, d'accompagner cette équipe et ces changements, ces évolutions. Donc ça fait bientôt 4 ans maintenant, hein, donc c'était le 1er janvier 2019. Voilà, je regrette absolument pas. Il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, on a entamé, je dirais, une politique, voilà, stratégique qui, avec 2 objectifs principaux, c'est-à-dire renforcer vraiment la légitimité scientifique de cette institution, la doter, voilà, des compétences dont elle a besoin pour développer en fait ses compétences scientifiques. À tout point de vue, que ce soit aussi bien la recherche, que les expositions, que la documentation, que la conservation des sites ou des collections, et leur valorisation. mais également en fait ouvrir le musée et les sites au plus grand nombre. Ça, c'est très important. Je considère que le musée, c'est un service public éducatif. Donc il a ce rôle important dans la société de permettre en fait de montrer des collections, des sites, d'imaginer ce qui s'est passé par le passé, comment ça pouvait être, d'essayer d'être dans l'immersion en fait, et puis donc d'apporter des connaissances, le plaisir d'apprendre, mais qui doit rester un plaisir, c'est-à-dire apprendre sans vraiment s'en rendre compte finalement, apprendre par le jeu, par l'exposition, une conférence, une lecture. Voilà, on varie énormément les modes de médiation.
C'est... Je bois vos paroles, je vous remercie d'avoir fait opérer une sorte de transition entre votre portrait et celui un peu de ce musée. Vous parliez de différentes évolutions, différents changements. Vous avez connu donc ce changement d'appellation, musée gallo-romain à Luc du Dôme, c'était juste avant vous, c'est ça?
C'était juste avant mon arrivée, oui, ça a dû se dérouler je crois en 2016-2017.
Et cela correspond un peu peut-être à ce dont vous parlez à l'instant, c'est-à-dire une forme de musée gallo-romain. Il est vrai que le terme est peut-être un peu ampoulé, un peu classique, alors que là, Luc du Dôme, il est vrai que ça claque peut-être un peu plus, c'est ça?
Alors l'idée qui avait été développée effectivement à l'époque, c'était
aussi,
de donner le nom déjà antique de la ville, de la fondation, la colonie romaine, fondée en 43 avant notre ère, et puis aussi de mettre dans cette appellation à la fois le mot musée et le mot théâtre romain, pour réhabiliter aussi cette notion de musée de site archéologique, parce que il n'y a pas d'une part le musée et puis d'un autre côté un parc archéologique. Le but en fait est de refaire du lien en fait entre les deux, ce auquel effectivement on s'est particulièrement attaché, surtout en période avec le Covid que l'on a connu, et le fait qu'il fallait aussi pouvoir rouvrir progressivement dans des conditions sanitaires qui étaient acceptables, qui mettaient en confiance le public, c'était de développer aussi beaucoup plus d'activités extérieures. Et finalement, c'est ce contexte particulier, assez difficile pour les musées et pour beaucoup de lieux de culture, de fermeture, de réouverture, en douceur ou parfois un peu difficile, qui nous a permis de réfléchir à la façon aussi d'animer davantage le site. Et animer davantage le site, déjà, c'est le faire connaître par des moyens assez traditionnels, la visite guidée, mais qui peut être très ludique pour tous les âges. On peut faire des jeux de pistes, on peut commenter un thème plutôt qu'un autre, la gestion de l'eau, la question du spectacle. Voilà, mais aussi relier une colline à l'autre. On est sur la colline de la Croix-Rousse, on fait des balades, par exemple, qui vont d'une colline à l'autre, d'un théâtre à l'amphithéâtre, avec beaucoup de collaboration, notamment avec le service archéologique de la ville de Lyon, mais également d'y installer des ateliers de plein air. Donc depuis 3 ans, ça prend très très bien à la période printemps-été, début d'automne. C'est très agréable de pouvoir expérimenter des ateliers artisanaux, la permaculture par exemple à l'époque antique, ce genre de choses sous les arbres, en face des théâtres antiques. Et puis d'y orchestrer aussi beaucoup plus d'événementiels. Ça peut être effectivement la Biennale, par exemple, de la danse qui était venue en 2018 sur le site de l'Odéon, mais aussi la naissance du Festival Romain. Donc une opération en fait ouverte à tous, gratuite, qui dure 2 jours, en fait d'un week-end en début octobre, en même temps que l'inauguration de l'exposition, et qui permet en fait au plus grand nombre, en particulier aux familles, de découvrir l'histoire vivante à travers des scènes de reconstitution historique avec des bénévoles absolument passionnés d'histoire. Au sein d'associations comme Pax Augusta, ACTA et beaucoup d'autres, des associations européennes qui sont toujours très rigoureuses sur la documentation scientifique et en même temps dans une ouverture au public, et un rôle très important en fait de la médiation, de la transmission d'informations, parfois casser quelques clichés. On a vu cette année notamment sur les combats de gladiateurs, nous on ne mettait pas toujours à mort les gladiateurs comme dans les péplums.
Avec le fameux pouce renversé, voilà, on pourra l'évoquer tout à l'heure.
Voilà, oui. Donc les reconstituteurs se sont fait un plaisir d'en parler en fait aux petits comme aux grands.
Ouverture au public, vous le dites, j'ai la brochure sous les yeux. Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre, oui hélas, auditeur, auditrice, c'est un petit peu passé, de 9h à 18h30, dernière entrée 17h30, entrée gratuite. Donc c'est quand même disponible, enfin disons c'est bien ouvert au public, mais dans la limite des places disponibles. Effectivement, je crois que l'édition 2021 avait été un énorme succès. Écoutez un peu cette présentation. L'empereur Adrien visite Luc du Dôme. Pour l'occasion, la capitale des Gaules lui organise un week-end festif rythmé par de nombreux spectacles. Revisiter la grande histoire grâce à une centaine de reconstituteurs passionnés de la Rome antique. Voici quelques éléments, entraînement de gladiateurs, joute de cavaliers, théâtre et musique, rencontre avec l'empereur et la garde impériale, atelier, Ça a été très complet, donc c'était la deuxième édition, un voyage dans le temps pour vivre les spectacles comme chez les Romains. Cette envie, j'ai pu assister à l'édition 2021, je n'ai pas pu venir à la dernière. C'est, effectivement, il y avait quand même vraiment beaucoup de monde, j'avais trouvé, et c'était épatant quoi, de voir de voir de l'histoire. Ça date plus ou moins de 1000 ans, un peu moins, un peu plus, et c'est très immersif, enfin du moins pour le coup. Immersif, n'est-ce pas un mot que nous pourrions utiliser, je crois, Claire, pour l'exposition? N'y a-t-il pas des espaces totalement immersifs, au nombre de 3, je crois, le cirque, l'amphithéâtre, le théâtre? Je me dis aussi, n'auriez-vous pas lancé un peu ces éléments d'exposition en parlant de l'amphithéâtre, en parlant du théâtre aussi, en parlant également, on n'a peut-être pas nommé Odéon. Je crois, auditeurs, auditrices, que nous sommes prêts à parler de l'exposition spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Peut-être, avant d'entrer vraiment dans le parcours du musée, c'est au terme, hein, quand on arrive de la rue Kléber, il faut se promener tout le long des différents espaces qui sont très intéressants. On peut retrouver encore la mosaïque. Une fois parcouru tout cela, on arrive tout en bas et c'est l'exposition. Peut-être un peu d'Oscar Peterson Trio, et ça pourrait faire une dernière question. Claire Iselin, peut-être on revient un peu à votre portrait. Pourquoi écouter un peu de piano et même un trio? Je crois que c'est complet. Hein, j'ai l'impression qu'il y a percussion, violoncelle, non pas violoncelle, contrebasse, ainsi que piano. Pour terminer ce premier instant d'émission, pourquoi ce titre? Vous avez, à côté de Gilgamesh, de la Mésopotamie, vous avez un goût pour le jazz?
Oui, j'aime beaucoup écouter du jazz, de la musique classique également, hein, et la musique contemporaine. Mais oui, Oscar Peterson, c'est vraiment un pianiste de jazz canadien que j'aime beaucoup. Il a un talent fou. Et en particulier, je vous recommande effectivement l'album Wicked Request, qui est sans doute mon préféré. Effectivement, tous les titres sont à écouter, réécouter.
Ne serions-nous déjà pas à l'intérieur de l'amphithéâtre quand il y a des aspersions qui sont pratiquées des parfums Days of Rhine and Roses? C'est le titre c'est le deuxième titre de cet album We Get Requests. Écoutons ça, puis ensuite vous nous en direz davantage sur tout ce que j'ai pu lancer: théâtre, amphithéâtre, Odéon, cirque, espace immersif, et puis aussi les missilia. C'est intéressant, ce sont des cadeaux, hein, auditeurs, auditrices, qui étaient faits par les organisateurs de ces jeux. Nous écoutons donc Oscar Peterson et nous continuerons à parler plus précisément de l'exposition spectaculaire, le divertissement chez les Romains, qui se tient à Luc Dulhomme, au musée, du 6 octobre, ça a commencé il y a déjà quelques temps, jusqu'au 11 juin. Il y a encore beaucoup de temps pour s'y rendre. Ah, j'avais tout préparé, et cela néanmoins ne veut pas démarrer, mais pour quelle raison? Que se passe-t-il? Ah, auditeur, auditrice, j'avais tout bien fait. C'est quel dommage que cela ne se lance pas. Vraiment, Claire, je vous assure, j'avais bien trouvé le titre. J'étais content comme tout. Ça bloque. Non, ça va aller. Ça va aller. Voilà, encore quelques instants. Je crains. Ah ben non, j'ai l'impression qu'en fait, ça ne veut pas. Je ne sais pas du tout pourquoi ça ne veut pas. C'est absolument terrible. Ah, si, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça? On va devoir écouter un autre CD ou alors autre chose. J'en suis vraiment très contrarié. Claire, je vous prie d'être absolument de bien croire que cela n'a jamais à ce point peu fonctionné. Écoutons un autre titre. Nous allons partir sur qui a quelque chose peut-être de français. Écoutons Daniel Darc. Je me souviens, je me rappelle. Ah bah, c'est formidable. Je me souviens, je me rappelle. C'est totalement en rapport avec l'exposition qui se tient donc au musée gallo-romain. C'est les fameux problèmes techniques. Écoutons Daniel Darc et puis on essaiera de retrouver du Oscar Peterson peut-être un peu plus tard.
Je me souviens, je me rappelle, c'est dans ces vieux chers à mon cœur. Le jour baissait, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me souviens, je me rappelle, très doucement jouait le vent. Alors elle me semblait si belle, alors moi j'avais tout le temps. Dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle une croix trop lourde pour moi, un voix qui pèse et m'écartèle. Pourtant comme jamais cette croix dissimule dans le silence des sentiments, des espérances qui montent et plongent sans bruit, étoiles brillantes dans la nuit. Je me rappelle ces temps, ces lieux chers à mon cœur. Le jour baissé, j'étais près d'elle. Je me foutais bien du malheur. Je me souviens, je me rappelle très doucement. Le vent jouait, alors elle me semblait si belle. Et loin le temps, je l'avais, oui. Je me souviens, je me rappelle. Une croix trop lourde pour moi. Un bois qui pèse et m'écartèle. Et pourtant, je l'aimais, cette croix. Je me souviens, je me rappelle. Je dissimule dans le silence mes sentiments, mes espérances. Qu'ils montent et plongent sans bruit. Étoiles brillant dans la nuit. Étoiles brillant encore dans la nuit. Dans la nuit.
Nous étions partis sur autre chose à l'instant, les analogies. Mais bon, nous écoutions Daniel Darc, Claire Iselin. Nous écoutions Daniel Darc, je me souviens, je me rappelle. Peut-être que c'est tout à fait lié à cette exposition spectaculaire, le divertissement chez les Romains. Directrice du musée, vous venez nous en parler. Et je vous remercie pour cette première partie d'émission, portrait que vous avez brossé. Vous avez également un peu parlé du musée. Et donc, vous me disiez à l'instant, hors antenne, que oui, il y aurait un lien entre ce que vous souhaitez faire du musée et cette exposition. Alors, pourriez-vous en parler peut-être plus dans les termes que vous souhaitez. Cette exposition qui a commencé le 6 octobre dernier se termine le dimanche 11 juin prochain. J'en redonne le titre, spectaculaire, je l'aime bien, à l'émission spectaculaire forcément, le divertissement chez les Romains. Claire, je vous en prie.
Alors cette exposition, on l'a pensée au sein du musée pour deux raisons principales déjà, c'est-à-dire qu'à Lyon, dans l'Antiquité, il y a 2000 ans, on observe la panoplie complète des édifices de spectacle. Donc là, ce n'est pas anodin qu'une ville concentre elle toute seule finalement des théâtres, un cirque, et puis un amphithéâtre. Et on parlera ensuite de leurs usages. Donc on voit déjà le rôle assez important de cette ville dans l'histoire de l'Empire romain. Et son rôle tout particulier, en particulier de capitale des Trois Gaules. Et par ailleurs, on voit aussi systématiquement qu'à chaque fois que l'Empire romain s'étend, qu'il colonise en fait des villes, soit qu'il en implante de nouvelles, ou qu'il s'implante en fait dans des villes préexistantes, il construit systématiquement des édifices de spectacle. Alors en général, on va trouver le plus souvent quand même un forum, mais également en fait un théâtre, des thermes. Ça, c'est assez systématique. C'est-à-dire que l'importance du spectacle, il y a 2000 ans, est la même que celle de nos jours. C'est-à-dire qu'actuellement, même dans les années 60, quand on implante encore des villes neuves, je pense au Brésil hein, par exemple, on pense systématiquement aussi édifices publics de spectacle. Et ça n'a pas beaucoup changé en fait entre il y a 2000 ans et nos jours, si ce n'est évidemment des différences dont on traitera sans doute tout à l'heure. Et qui sont mises en avant aussi dans l'exposition. Donc ça nous a semblé être quelque chose d'intéressant, puisque dans la programmation qu'on met en place au sein du musée, on aime beaucoup traiter finalement de l'actualité au regard de ce qui se passait il y a 2000 ans. Par exemple, on avait traité de l'alimentation à l'époque antique, à l'époque romaine, avec l'exposition Une salade César, voilà, qui était volontairement un petit clin d'œil comme ça, ce jeu de mots, mais qui permettait finalement de discuter de ce qu'on mangeait il y a 2000 ans en lien avec la problématique actuelle de l'alimentation, des circuits courts, de la diététique, finalement qui sont des questions déjà traitées dans l'Antiquité. Par ailleurs, on a aussi voulu traiter de la mécanique du pouvoir, le pouvoir étant voilà, un thème qui structure aussi nos sociétés. On était aussi en période d'élection à ce moment-là, et c'était très intéressant de regarder comment ça se passait il y a 2000 ans pour avoir un petit peu de recul en fait, sur notre actualité et comprendre un peu les codes d'accession au pouvoir, ce qui a donné d'ailleurs lieu à un jeu de société que l'on vient d'éditer et qui est en vente dans toutes les bonnes maisons de jeux et la boutique du musée, voilà, qui s'appelle l'année des 5 empereurs. Et donc cette année, le thème, c'était vraiment de traiter en fait du spectacle. Et on a voulu le traiter alors avec un comité scientifique d'experts multidisciplinaires. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des historiens que l'on va avoir des spécialistes de l'acoustique, de l'immersion, de la restitution des émotions des visiteurs. C'est un domaine de recherche en plein développement depuis 20 ans. La restitution effectivement voilà, des sons également, du processus en fait immersif pour mieux comprendre les spectacles, parce qu'on ne voulait pas en traiter uniquement à travers du bâti conservé qui ne restitue pas à lui tout seul en fait l'ambiance d'un spectacle, les émotions des spectateurs, mais essayer de plonger les visiteurs dans cette ambiance en fait il y a 2000 ans. Donc pour cela en fait on est parti déjà des bases, c'est-à-dire à quoi sert un théâtre, comment est-ce qu'il est structuré, notamment un théâtre en fait on le confond souvent avec l'amphithéâtre. On dit souvent je vais aux arènes, on entend souvent hein, je vais aux arènes par exemple quand on va finalement au théâtre, aussi parce que dans notre vocabulaire contemporain on mélange souvent un petit peu le théâtre et amphithéâtre. Quand on est à l'université, voilà, on dit je vais dans l'amphi,
je vais à l'amphi, ouais.
Alors qu'en réalité c'est un théâtre en fait, où c'est dans un théâtre qu'on donne les cours, puisqu'un théâtre est constitué en fait d'un mur de scène et d'un demi-cercle en fait de gradins hein, pour les spectateurs, le mur de scène servant à traiter à la fois des coulisses mais aussi de l'acoustique. Donc c'est vrai que les théâtres en fait antiques de Lyon sont intéressants, mais ils ne conservent plus leur mur de scène. Hein, donc c'est vrai que quand on va s'asseoir sur les gradins et qu'on voit le Mont Blanc comme ça de très très loin, ce qui est absolument fabuleux, il faut imaginer effectivement que les spectateurs à l'époque ne voyaient pas ce mont quand il était au spectacle, mais voyaient plutôt un mur de scène avec tout un décor.
Il est rétabli lors des nuits de Fourvière.
Voilà, il est rétabli sur des scènes contemporaines, tout à fait. Voilà, et il est nécessaire toujours pour les mêmes raisons. L'acoustique notamment, la technicité aussi, et puis la gestion aussi des coulisses d'un spectacle et des décors. Donc on a à Lyon ces deux édifices de spectacle qu'on appelle souvent théâtre et Odéon. On a tendance à les différencier en disant qu'au théâtre on fait plutôt de la comédie, de la tragédie, du pantomime. En fait c'est un spectacle qui passe essentiellement par le mime et non pas par la parole, accompagné de musique, de chant. Un seul acteur finalement mime des scènes mythologiques. C'était très populaire dans l'Antiquité parce qu'il n'était pas nécessaire de comprendre le latin pour assister au spectacle. Et souvent on dit que dans l'Odéon on faisait plutôt des spectacles d'origine musicale, poésie, déclamation, poétique, ce type.
Conférence, j'ai même conférence entendu également. Lecture.
Alors les spécialistes avec qui on a travaillé pour l'exposition nous disent attention, il se fait que ce soit quand même tous les deux à chaque fois des salles polyvalentes, c'est-à-dire que si un deuxième édifice qu'on appelle Odéon est venu se greffer dans un second temps à Lyon, c'est sans doute parce qu'il y avait besoin aussi de capacités supérieures en fait pour y faire des spectacles ou des réunions, et il se peut tout à fait que les deux aient échangé des fonctions assez similaires avec des formats différents. C'est vrai que dans un Odéon on a un format un petit peu plus intimiste. Bon, c'est quand même 3000 places hein, à l'époque antique, alors que dans le théâtre antique, on montait jusqu'à 10 000 spectateurs. Voilà, donc ça, ce sont les principaux édifices que l'on retrouve dans beaucoup de villes romaines. Il est rare de trouver deux théâtres simultanés, c'est le cas de Lyon. Et puis, on trouvait également donc un amphithéâtre, donc en périphérie de la colonie lyonnaise, sur les pentes de la Croix-Rousse, voilà, qui n'est pas des moindres, puisque c'est un amphithéâtre qui a été construit voilà, à peu près... voilà, au premier siècle, à l'époque en fait de Tibère, on le situe souvent à cette époque-là, et qui contenait à peu près 1800 spectateurs, et puis qui s'est agrandi par la suite au deuxième siècle pour atteindre une capacité quand même de 20 000 places.
Ah, alors qu'est-ce qu'un amphithéâtre par rapport à un théâtre?
Alors un amphithéâtre, voilà, on y vient tout à fait. C'est un lieu de spectacle de forme elliptique. Donc on peut s'y asseoir sur tous les côtés. Amphithéâtre, ça veut dire être vu de tous les côtés, en fait, des deux côtés en particulier.
C'est donc un double théâtre en quelque
sorte. C'est un double théâtre, en fait, vous prenez deux morceaux de gradin, voilà. Vous les assemblez. Et de forme plutôt elliptique, parce que c'est plus simple, en fait, d'avoir ce type de forme pour bien voir le spectacle de tous les côtés qu'une forme ronde. Donc ça a été expérimenté, alors les amphithéâtres... voilà, c'est vraiment un produit purement romain, contrairement au théâtre qui est d'origine grecque.
Le mot lui-même est grec.
Voilà. Et l'amphithéâtre est d'origine étrusque, hein, d'ailleurs, puisqu'on y pratiquait dès les époques en fait reculées déjà à la fois des combats d'animaux sauvages et puis évidemment les fameux spectacles de gladiateurs. Alors à Lyon, l'amphithéâtre des Trois Gaules, assez peu connu, hein, discret dans le paysage, revêt un rôle tout particulier, c'est-à-dire qu'en plus d'accueillir ces spectacles-là, il était en fait accolé à un sanctuaire, le fameux sanctuaire des Trois Gaules, qui donne son nom à la ville, qui était en fait un lieu de rassemblement des représentants des 60 tribus gauloises dans l'Antiquité. C'est une sorte de grand parlement, en fait, hein, qui venait prêter allégeance à l'empereur de Rome et qui aussi bénéficiait en retour d'un certain nombre une certaine autonomie qu'on leur reconnaissait, que l'Empire romain lui reconnaissait en termes de gestion des affaires locales, notamment. Et on trouve sur les gradins de l'amphithéâtre des Trois Gaules le nom de ces tribus qui venaient se réunir pour assister à des festivités, notamment au mois d'août. Hein, donc, grand spectacle donc de à la fois de chasse, de combat de gladiateurs, et puis malheureusement aussi parfois de mise à mort, hein, pour les prisonniers de guerre, les condamnations, oui. Voilà, pour les crimes commis.
Blandine,
les martyrs chrétiens également, voilà, qui l'histoire raconte effectivement qu'il y a eu aussi des exécutions de martyrs chrétiens dans l'amphithéâtre des Trois Gaules. Donc, et enfin, on a dans la panoplie complète aussi un troisième type d'édifice à Lyon, qui est le cirque. Alors le cirque, c'est l'hippodrome de nos jours, en fait. C'est une forme longitudinale avec et arrondie en fait à ses extrémités, qui permet d'y effectuer des courses de chars. Alors des courses d'achats avec des attelages qui peuvent aller de 2 jusqu'à 4, 6 chevaux. On ne va pas plus vite avec 4 chevaux, simplement c'est plus difficile de les piloter. Et tout l'exploit consiste à faire 7 tours, avec donc 14 virages. À chaque fois qu'on prend un virage, on risque quand même pour sa vie. Donc c'est un sport en fait pour lequel finalement l'espérance de vie est relativement courte, mais on gagne beaucoup d'argent. Donc le cirque lyonnais n'a pas été retrouvé en fouille, mais on sait qu'il existe parce qu'on a de conserver dans les collections notamment du musée Lugdunum en fait des inscriptions qui mentionnent le financement par des édiles, donc des magistrats, des sénateurs, de ce cirque, en fait, de sa construction, d'un certain nombre de gradins supplémentaires pour accueillir les spectateurs. Le plus célèbre, en fait, c'est le cirque Maxime à Rome, qui lui pouvait accueillir jusqu'à 220 000 spectateurs. Donc à la fin de l'Antiquité. Alors ça, on laisse imaginer le Stade de France actuellement, c'est 80 000 places. Hein, donc
le Maracana de Rio pourrait peut-être, mais en fait non, je crois qu'il s'arrêtait à 200 000. Donc c'est
200 000 quand on pouvait encore rester debout.
Oui, parce qu'effectivement des travaux ont ramené la contenance à quelque chose de bien moindre. J'hésite à vous interrompre en vous lançant le nom de Flavius Priscianus, mais je vous en prie, vous savez, c'est la vidéo, parce que vous êtes sur les sites, et c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous nous conduisez. Je crois que tout doucement, on va finir par entrer dans le parcours de l'exposition. Donc je vous laisse, vous étiez sur le cirque, qui est 220 000 places, c'est absolument... c'est bien celui de Rome, hein, dont nous parlons. Pour Lyon, c'était certainement inférieur. On peut le savoir, à peu près, ce que ça peut faire comme
capacité. On ne peut pas le mesurer précisément, puisqu'on ne l'a pas retrouvé.
Non, bien sûr,
mais oui, plusieurs dizaines de milliers de places, hein, tout à fait. Donc ce sont des édifices qu'on retrouve un petit peu plus rarement en fait dans les villes antiques, aussi parce qu'il faut un foncier beaucoup plus important pour installer un cirque. Là, qu'on peut les avoir en construction en bois notamment, donc qui auraient laissé peu de place en fait.
On le situe plus ou moins au cimetière de Loyasse, c'est ça je crois.
Voilà, au cimetière de Loyasse, tout à fait. Donc c'est là qu'on le situe pour des raisons topographiques. Le tracé en fait vierre actuel tenterait en fait à contourner cet édifice. Voilà, et on a retrouvé sur un tout petit secteur de fouilles dans les années 2000 des murets qui pourraient correspondre effectivement à au contournement en fait de la piste. Voilà, c'est tout ce que l'on sait. Et ce sont des hypothèses à vérifier un jour si des fouilles ont lieu.
Y aurait-il un lien avec l'exposition précédente? Est-ce que cette fameuse année, c'est le jeu de société, l'année des cinq empereurs, est-ce que c'est au terme de l'arrivée au pouvoir de Septime Sévère? C'est plus ou moins ça. Est-ce que, la ville de Lyon subit quelques dommages à ce moment-là, s'étant rangée plus ou moins derrière le mauvais cheval? Est-ce que des dégradations, enfin du moins des destructions auraient pu avoir lieu à ce moment concernant ce cirque, ou on ne sait en fait pas du tout vraiment ce qu'il a pu en advenir?
Pas assez d'éléments pour le dire. On sait qu'à la fin de la bataille de Lyon, effectivement, des destructions ont eu lieu, mais la ville s'est très vite remise. Et en fait, finalement, elle commence à connaître des transformations importantes à la fin du IIIe siècle de notre ère. La population va progressivement descendre de la colline et s'installer en bordure de Saône. On n'a pas davantage d'informations sur le cirque. Et serait vraiment nécessaire d'effectuer des fouilles pour en savoir davantage. Néanmoins, ce qui nous a motivé à faire l'exposition, c'est l'existence de ces édifices et de comprendre finalement pourquoi le spectacle avait autant d'importance dans l'Antiquité et qu'est-ce qui se déroulait dans ces édifices. Donc on est passé notamment par des méthodes immersives. On a trois boîtes dont vous parliez tout à l'heure.
Dans le parcours de l'exposition.
Exactement, qui permettent, via des technologies en trois dimensions, qui ont été faites avec un centre de recherche pluridisciplinaire installé à Caen dans le Calvados. Je n'y suis pour rien, même si je suis d'origine cannaise. Qui a beaucoup travaillé sur la restitution en trois dimensions d'édifices comme le théâtre de Pompée, qui est le premier théâtre en dur construit à Rome. Évidemment, le Colisée, le plus connu. Qui pouvait accueillir jusqu'à 50 000 spectateurs. Et puis le Cirque Maxime dont on parlait tout à l'heure. Donc on peut rentrer, être vraiment dans l'immersion accompagné d'un film qui restitue en fait l'ambiance sonore. Donc aussi bien les applaudissements, les acclamations des spectateurs, mais également les instruments de musique en fait qui étaient utilisés pour ponctuer le spectacle. Ça, on y pense assez peu, on y pense beaucoup en termes de concerts, aussi d'accompagnement, aussi de pièces à caractère théâtral. Mais par exemple, durant les combats de gladiateurs, on entendait toutes sortes d'instruments comme des trompettes, de l'orgue hydraulique, en fait, qui venaient ponctuer les séances de combat. On a souhaité donc traiter plus particulièrement de ces trois thématiques parce que ce qui nous semblait aussi intéressant, c'était de faire ce lien passé-présent. Et vous verrez en fait dans l'exposition que comme un universitaire le proposait, on n'a pas hésité à comparer par exemple les courses de chars qui sont faites effectivement par les conducteurs de chars des origines avec le fonctionnement du football actuel. Donc c'est-à-dire que c'est un jeu qui fonctionne par équipe de couleurs, bleu, vert, jaune, rouge, avec des supporters, avec des paris, avec des rétributions assez importantes. Ce sont des stars qui sont très bien rémunérées.
Avec des transferts. Voilà,
des transferts de joueurs. Finalement, on est exactement dans les mêmes codes, dans la même sociologie aussi du football. C'est d'actualité en ce moment. Et donc, ça nous a semblé assez intéressant, puisque faire ce lien passé-présent avec beaucoup de précautions, puisqu'évidemment, il y a aussi des différences, c'est aussi faire de la pédagogie. C'est-à-dire qu'on se sent plus à l'aise quand on dit « vous voyez ». Finalement, il y a des points communs avec ce que vous connaissez actuellement, le monde dans lequel vous vivez, et permet de mieux se projeter, mieux se comprendre en fait ce qui se passait il y a 2000 ans. Après, il y a des différences, notamment que vous pourrez découvrir dans l'exposition, notamment le rôle très important effectivement du calendrier religieux. C'est-à-dire que ces jeux, ce sont des jeux civiques, c'est-à-dire qu'ils sont là pour garantir la cohésion de l'Empire, la cohésion sociale, autour de la figure notamment de l'Empereur et des divinités qui l'accompagnent. Et donc, ils sont précédés, ces jeux, systématiquement, de cérémonies à caractère religieux. On transporte la statue d'une divinité dans le lieu de spectacle. On effectue des libations, des sacrifices, avant même que le spectacle ne commence. Donc ça, c'est très important. Et le calendrier religieux suit en fait le calendrier des spectacles à tel point que, à la fin de l'Empire romain, à Rome, spécifiquement au IVe siècle, il y avait 175 jours chômés consacrés en fait au spectacle. Ça laisse imaginer l'importance que pouvaient avoir ces jeux. Et par ailleurs, aussi, quand vous êtes au théâtre, il faut bien avoir en tête que face à vous, vous avez ce fameux mur de scène dont on parlait tout à l'heure, et que ce mur de scène, en fait, était ponctué d'un décor à vocation propagande autour de l'empereur, la statue de l'empereur en majesté, et puis entouré en fait de toute une série de divinités, de scènes mythologiques auxquelles il peut raccrocher aussi sa légitimité, et de ses ancêtres. Donc, ces spectacles n'étaient pas offerts gratuitement par les édiles. Il y avait quand même un but aussi de garantir une certaine cohésion, sachant que de très grosses fortunes étaient entre les mains de ces édiles, et pour justifier en fait de ces grosses fortunes, puisqu'il n'y avait pas d'impôt sur le revenu à l'époque, on finançait des monuments publics de spectacles notamment, et on finançait des spectacles en fait. C'est comme ça que fonctionnait la société romaine.
Le terme, vous définissez en fait l'évergétisme, c'est un peu ça.
Voilà, une sorte de mécénat forcé, entre guillemets. Voilà, on traite de cette question dans l'exposition à travers de quelques inscriptions en fait latines qui mentionnent l'édification par exemple du cirque à Lyon. Et on les compare effectivement avec les financements actuels en fait, de spectacles à caractère sportif ou de stades. On peut penser au Groupama Stadium effectivement à Lyon, où vous verrez un maillot de l'OL avec le nom du sponsor, par exemple, figuré en son centre. Que penserait un archéologue dans 2000 ans s'il trouvait un t-shirt comme celui-ci? Voilà, c'était un peu l'idée. Donc on n'hésite pas ensuite à traiter effectivement aussi de la question... De la gladiature, en fait, qui est quelque chose de très intéressant, sur lequel on a beaucoup d'idées un peu préconçues, véhiculées notamment par tous les péplums, les films que l'on a pu voir, les séries. On parle du film Gladiator, qui est un très très beau film, mais avec évidemment quelques inexactitudes historiques.
Oh, si,
ce qui n'empêche pas d'être un très bon film, malgré tout.
Le casque de Maximus, vous l'avez obtenu de quelle manière?
C'est un prêt de musée, effectivement, dédicacé par Russell Crowe, pour les fans, quand même. Et c'est très intéressant de montrer l'interprétation au cinéma du rôle du gladiateur, et puis finalement la réalité qu'il faut relativiser. C'est vrai qu'on explique à travers un certain nombre de dispositifs, il y a un petit jeu vidéo d'ailleurs pour tous, pour les enfants comme pour les parents, qui permet de se rendre compte qu'en fait la gladiature, c'est vraiment un spectacle, au même titre que la boxe traditionnelle ou le catch en quelque sorte. En fait, on a deux personnes qui se connaissent très bien, ils fonctionnent par binôme, qui se respectent et qui vont entamer en fait un spectacle, une sorte de chorégraphie. On ne combat pas avec n'importe quel autre gladiateur, il y a différentes catégories d'équipements et de noms de gladiateurs. C'est expliqué dans l'exposition, et puis surtout il y a une technicité qui fait qu'il faut un certain nombre d'années d'entraînement pour y arriver. Donc on rentre en fait dans une équipe, on est formé pendant des années, logé, nourri, donc on coûte cher. Et parce qu'on coûte cher, et aussi parce qu'on rapporte beaucoup d'argent aux propriétaires de l'équipe de gladiateurs, on ne nous met pas à mort aussi facilement qu'on le croit. C'est quand même un investissement.
Une seconde alors sur le polichéverso, sur ce pouce, a priori c'est une méprise, enfin c'est une erreur qui aurait été faite, le pouce tendu vers le bas pour demander la mort de la part de l'empereur. Ça n'existe pas.
Non, ça n'existe pas. C'est une idée qui a été très véhiculée, notamment par l'iconographie. On peut penser au tableau du peintre Jérôme, très connu, avec cet empereur qui baisse le pouce pour condamner à mort finalement un gladiateur qui aurait mal combattu. En réalité, on utilise plutôt des codes un petit peu plus différents, avec la position de la main, la paume, qui était expliquée lors du festival romain. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin d'un combat, l'empereur, aidé en fait de la foule, des spectateurs, va décider du devenir d'un gladiateur. S'il a combattu courageusement, même s'il a perdu, il va être évidemment maintenu en vie. Il va pouvoir continuer sa carrière. Après, si effectivement son comportement n'a pas plu en fait au public, il se peut qu'il soit mis à mort. On sait qu'à la fin de l'Empire romain, il y avait beaucoup plus de condamnations en fait, de mise à mort des gladiateurs qu'au tout début. Peut-être aussi parce que l'Empire partant un petit peu dans tous les sens, se déclinant, il était peut-être nécessaire d'avoir quelque chose de plus spectaculaire, sans doute, pour les spectateurs. Et puis la dernière section aussi de l'exposition traite du théâtre. C'est vrai que souvent on a du mal à se figurer ce qui se passait en fait dans un théâtre antique. On parle de comédie, de tragédie, alors qu'ils sont des spectacles de tradition grecque. Hein. On déroule vraiment la construction du récit d'une comédie notamment qui finalement repose sur les mêmes codes qu'un James Bond. C'est-à-dire que quand on va voir un film, un James Bond, une série que l'on aime bien ou un roman construit un petit peu toujours avec les mêmes codes, on a déjà du plaisir avant même de le commencer parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre. Et bien en fait, dans la représentation des comédies antiques, c'était un peu la même grammaire de l'écriture, du suspense, tel type de scène va arriver à tel moment en fait du récit. Et en même temps, on introduit un petit peu de surprise pour varier quand même la construction de l'histoire. Et finalement, on retrouve toujours cette même grammaire de l'écriture, employée ensuite par Molière, et puis jusqu'à nos jours dans certaines séries et comédies, qui n'a pas beaucoup changé. Les tragédies aussi sont construites sur le thème du crime, quelque chose de difficilement acceptable par la société, qui amène souvent un personnage à se transformer en monstre. On pense à Médée, par exemple. Et on traite aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, des pantomimes, qui sont des spectacles entièrement mimés, qui demandent finalement aux comédiens d'avoir un certain talent. Il va utiliser différents masques, un costume, et puis mimer uniquement avec son corps des scènes mythologiques, comme le mythe d'Arachné, avec cette personne qui se transforme en araignée, par exemple, et qui est représentée dans une boîte immersive dans l'exposition, avec une comédienne qui aidée en fait d'une historienne à figurer une typologie, comme ça, un type de spectacle mimé qui pouvait représenter aux pantomimes de l'époque, puisqu'on ne dépend que des sources écrites ou iconographiques pour restituer ces spectacles. Donc on est obligé de le faire avec beaucoup d'humilité aussi.
J'allais tout à l'heure, je vous ai donné le nom de Flavius Priscanus, je vous ai interrompu, puis finalement on a continué sur les sites. Là, j'hésitais à vous donner le nom de Marcus Attilus il y a quelques instants, et finalement, en fait non, il faut parler de Pilade, un célèbre pantomime. Je parle des trois vidéos que je trouve, auditeur, auditrice, c'est toujours gênant, pourrais-je l'avouer, mais je trouve ça absolument génial. La vidéo de Pilade, célèbre pantomime, on voit un comédien, mais il est fabuleux avec ses lunettes de soleil, c'est splendide. Quatre questions, lui sont éventuellement posables. On peut lui demander pourquoi cette tournée en Gaule. Avez-vous le trac avant le spectacle? Quelle est la recette de votre succès? Et la dernière question, elle est fabuleuse. Votre liaison avec l'impératrice? Simple rumeur. Donc ce sont trois vidéos qui ponctuent un petit peu. Je vous remercie. En fait, on a tout parcouru. Vous avez indiqué, quand vous parliez tout à l'heure des libations et du pouvoir et de cette forme d'évergétisme, on était dans les premiers pas que l'on peut faire une fois qu'on entre dans ce parcours de l'exposition elle-même. Ensuite, on a continué avec ces différentes boîtes immersives dans lesquelles, une sorte, non, il n'y a même pas de rideau, je crois, on peut entrer, et il est vrai, vous l'avez indiqué, l'ambiance sonore est assez, assez stupéfiante. Donc, il y a, dans l'ordre, je crois, c'est d'abord le cirque, me semble-t-il, les courses, c'est ça, il y a ensuite l'amphithéâtre, et puis on termine avec Pilade. Pouvez-vous en dire peut-être un mot, ou alors peut-être pourrais-je tenter de lancer quand même quelque chose, un peu de musique, histoire de retrouver un peu votre souffle, et puis on continuera sur cet aspect, comment qualifier ça, une forme d'aspect contemporain, enfin non, c'est pas tout à fait contemporain, c'est comment dire, chercher à ne pas rendre les choses trop peut-être pénibles, difficiles d'accès, trop élitistes, zut, j'ai prononcé un terme dont il fallait peut-être se garder. Retentons Oscar Peterson, ça ne marche pas, j'ai une solution. On pourra écouter le Seven Nations Army, je ne sais pas si vous savez, c'est le Claire Iselin, c'est l'hymne des stades de football. Tentons, essayons Oscar Peterson, si ça ne marche pas, eh bien on se croira dans un stade de foot. Je crois qu'il est question de foot, me semble-t-il, actuellement, un petit peu. Réessayons pour Oscar Peterson. Vous êtes toujours dans Spectaculaire, fin d'émission, il reste encore tout de même quelques minutes. D'ailleurs, le titre que nous allons écouter, on n'ira peut-être pas au terme. Et puis nous finirons, nous allons bien boucler sur Luc Dunhomme, l'exposition qui a lieu au Musée romain qui se trouve à Fourvière, le divertissement chez les Romains. Thank you. Et en fait, je voulais, j'avais annoncé que je couperais Oscar Peterson. Mais non, ne coupe pas Oscar Peterson. Vous l'indiquez à l'instant, Claire Iselin. Days of Rain and Roses. D'ailleurs, n'avais-je pas indiqué ça tout à l'heure, que lors des spectacles d'amphithéâtre, des parfums pouvaient être vaporisés sur les spectateurs, spectatrices. Il y avait également des missilias, des cadeaux qui étaient envoyés par les financeurs de ces spectacles. Mince, je me dis qu'il nous reste encore 2-3 minutes. Comment parler de tout cela? Et puis je vous ai lancé sur Pilade, le célèbre pantomime, sur également Marcus Attilius et Flavius Priscanus. Comment Claire Iselin peut-être en 3 mots, non, davantage certainement. Comment parler de cet aspect, comment le qualifier, un aspect, un adjectif je crois très simple, complètement accessible de cette exposition. Attention, auditeurs, auditrices, vous n'allez pas, ce n'est pas un traquenard quand vous entrerez dans ce musée, qui peut sembler peut-être un peu sombre, malgré les canons de lumière. Non, c'est une fois arrivé donc au terme du parcours permanent, l'exposition, l'espace lui-même est absolument... Il y a des couleurs, c'est formidable, c'est extrêmement accessible. Quelle a été la clé de cette accessibilité, Claire Iselin, directrice de Luc Dunhomme?
Alors l'accessibilité pour tous, c'est vraiment... Elle est motrice en fait dans le projet du musée. Et c'est-à-dire que quand on conçoit une exposition, on réfléchit à la manière en fait d'apporter en fait des connaissances de la manière la plus ergonomique possible. On sait, d'après des études qui sont faites actuellement dans le domaine des sciences de la communication, dans les neurosciences, on travaille avec des partenaires, des chercheurs dans ce domaine, et on initie des terrains de recherche actuellement avec eux sur des études des publics et de restitution de nos expositions, qu'il est nécessaire notamment de varier les modes de médiation, c'est-à-dire raconter une même idée de différentes manières, de manière à ce qu'on puisse soit lire un propos, soit le voir, soit l'expérimenter, le jouer, le toucher, ressentir des émotions. Tout cela en fait participe d'une manière en fait d'apprendre qui n'est plus celle qu'on a pu connaître peut-être de manière un petit peu plus passive en fait dans notre enfance sur les bancs de l'école, mais plutôt dans la participation, ce que font d'ailleurs actuellement les professeurs à l'école. Ils travaillent beaucoup avec ce mode en fait de pour bien comprendre en fait un concept, je dois être en capacité de me l'approprier, et le top en fait c'est vraiment d'être en capacité de le restituer à quelqu'un d'autre. Donc c'est ce qui nous anime. Et par conséquent, quand on veut passer une idée, un concept, on réfléchit à ce qu'il soit le plus synthétique possible, avec des mots-clés. On sait qu'on passe davantage par l'image que par le texte, parce qu'on n'est pas non plus dans une situation de confort qui amène à pouvoir lire tranquillement un catalogue dans son salon, qui lui est un complément de l'exposition, le catalogue de l'exposition.
Il est absolument, c'est une mine à un tarif défiant toute concurrence. D'ailleurs, on n'a pas encore évoqué les tarifs de l'exposition qui sont également qui défient toute concurrence. 25 euros pour cet ouvrage qui comporte des interviews. L'infographie, c'est un gros mot que je voulais prononcer. C'est dans l'exposition elle-même, à l'intérieur du catalogue aussi, il y a beaucoup de données qui sont transmises, non pas par du texte ou par des tirets, mais par des éléments qui sont très visuels, des figures ou différentes choses. Donc, vous dites, on ne peut pas être chez soi avec un catalogue quand on voit l'exposition. La lecture est peut-être un peu compliquée.
C'est vrai que l'exposition, on ne la fait pas nécessairement comme un livre. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. C'est pour ça qu'on fait une exposition avec des compléments, notamment le catalogue dont vous parliez tout à l'heure, qui est composé d'interviews, d'articles un peu plus approfondis sur des notions, et puis aussi de focus sur des objets en particulier. Donc il reste très accessible et en même temps très sérieux, parce qu'il se fonde sur un approfondissement de la connaissance que l'on peut avoir dans l'exposition. Et par ailleurs, en fait, par exemple, vous traitiez tout à l'heure des interviews dans l'exposition. On a choisi par exemple un format d'interview qui est celui qu'on connaît de nos jours, c'est l'interview de la star. Tout simplement, mais c'est volontaire. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience qu'un gladiateur, qu'un conducteur de char ou qu'un comédien, même si souvent c'était des métiers qui étaient déconsidérés dans la population, on a souvent affaire à des personnes qui sont des esclaves, des anciens affranchis ou des issus de familles un peu déchus qui vont se lancer dans ce type de métier qui privilégie notamment l'expression corporelle, ce qui est quand même très mal vu dans la société romaine, mais qui en même temps bénéficie d'une certaine aura, c'est tout le paradoxe, avec un salaire important, avec une forme de reconnaissance et de succès, en fait. Donc, il était important, pour le faire comprendre, de restituer une intervention, voilà, une interview, pardon, comme celle, par exemple, d'un comédien ou d'un acteur au Festival de Cannes, tout simplement. Donc, vous verrez que le format peut paraître assez amusant, un peu décalé, mais en fait, tout ce qu'il vous raconte,
des vidéos,
c'est vrai.
Qui
voilà,
sont
des vidéos. C'est...
Il y a une sorte de panneau vidéo presque à taille réelle. Hein. Le comédien doit faire plus ou moins la taille qu'il fait. Il y a des écouteurs que l'on peut prendre, et à défaut de, il n'y en a que deux accessibles, si jamais c'est trop compliqué, le texte est surtitré. Ou sous-titré,
voilà, le site, disons, le texte est sous-titré, donc c'est très accessible, et on pose soi-même les questions.
On peut choisir. J'ai celle de Marcus Attilus sous les yeux. Pourquoi arrêter après ces jeux? Des conseils pour les débutants? C'est pas un peu risqué comme métier? Et enfin, terminons. Comment gérez-vous la célébrité? Il manquera les questions de Flavius Priscanus, mais bon, on va peut-être les passer. Et encore, si, quelle réaction après cette victoire? Comment va votre blessure? Comment en êtes-vous arrivé là? Quelle suite pour votre carrière? Je crois qu'il envisage un transfert, de passer justement chez le FC. Enfin bref, oui, c'est des vidéos qui sont. Vous étiez en train d'en parler quand je vous ai coupé, Clarisse, là.
Voilà, c'est ça. Donc on est libre en fait d'agir et soi-même de poser les questions et d'être en fait acteur. C'est important aussi d'être acteur dans une exposition. Donc on est attentif en fait aux réactions du public, et à chaque exposition on apprend aussi de cette exposition pour essayer de faire mieux la fois suivante. Donc ça, c'est ça aussi. Et l'exposition spectaculaire en soi, c'est un jalon pour nous, parce qu'on a expérimenté aussi une nouvelle méthode de travail où c'est le musée vraiment qui produit ce contenu aux côtés en fait d'experts scientifiques, et qui considère qu'on est en capacité aussi de vulgariser dans le bon sens du terme un savoir pour le rendre accessible au plus grand nombre. Et l'exposition, vous verrez aussi quand vous y rendrez, elle se termine aussi par un prolongement sur le site des théâtres antiques, puisqu'on a poursuivi en fait le parcours. Il y a une très jolie signalétique jaune pétante, hein, on peut pas la rater, qui donne à comprendre en fait ces édifices quand vous y promenez, jusqu'à l'amphithéâtre des Trois Gaules, où se trouve également une signalétique qui permet de comprendre quel rôle avaient ces édifices dans le Lyon antique.
Vous n'avez pas tout dit, mais quand même pas loin. De toute façon, à presque 15h05, il est temps, le blues des canuts. Je crois que l'animateur est presque prêt. Il va falloir que nous en restions là. C'est absolument terrible. J'avais encore quelques annonces à faire. Je voulais parler de spectacles contemporains. Je voulais annoncer au Célestin. Il y a bientôt va commencer. Non, en fait, les pièces se terminent ces jours-ci. Se terminent les Illusions perdues. Non, ça c'est vraiment terminé. C'est le contraire de l'amour qui va commencer. Et puis il y a aussi le feu. Voilà, le feu, la fumée, le soufre. Ça a commencé. Ça commence mercredi 30 novembre. Ça se termine le 7 décembre. Christopher Marlowe. Ça c'est intéressant. Ce n'est pas non plus du théâtre tout à fait récent, un contemporain de Shakespeare, je crois, plus ou moins, mis en scène par Bruno Gélin. Et puis au TNP, il y a aussi se termine également, va commencer, s'interrompre et reprendre ensuite, le suicidé vaudeville soviétique, une création de Jean Bellorini sur un texte de Nicolas Yardman avec André Markovitch. Et puis les imprudents s'achèvent ces jours-ci, une pièce à partir de Marguerite Duras. Il y a d'autres choses encore à venir aussi. Il y a des concerts à l'auditorium. Rhône avec l'ON. Rhône, ce sont des musiques actuelles. Électro avec l'orchestre, le grand orchestre sera avec lui. Et puis Marché-Gare, je crois que le mieux pour en parler, ce sera de recevoir la semaine prochaine, ce sera d'écouter ce que nous dira le directeur Benjamin Petit, que nous recevrons. Il y a un atelier néanmoins intéressant que je voulais évoquer, c'est samedi 3 et dimanche 4 décembre. Salut les Iquettes. Salut les Iquettes, ce sont des ateliers de musique et d'empowerment destinés aux femmes. Cis et trans, c'est personnes non binaires. Dans ces ateliers, on appréhende plusieurs instruments, on joue en groupe, on s'écoute, tout ça dans la bienveillance et le fun. Ces ateliers proposés pour la première fois à Lyon sont entièrement gratuits et sont animés par les musiciennes Julie et Victoria. Une action proposée avec l'épicerie moderne et le périscope, ce sera une des premières questions que nous poserons la semaine prochaine. Et encore d'autres choses aussi qui se terminent. C'est la résidence de Priscilla Horviller à la bibliothèque de la Pardue avec l'anniversaire. Anniversaire party de la bibliothèque, ce samedi 3 décembre de 10h à 18h. Un quiz dessiné sera animé par Priscilla Horviller, quiz interactif de Tintin Astérix en passant par Mortel Adèle ou Calvin et Hobbes. Êtes-vous incollable? Quiz interactif proposé autour de la BD animée par Priscilla Horviller. Enfin voilà, je mettrai tout ça renseignement sur le blog, parce que je voulais aussi annoncer il y en a beaucoup, hein, je crois, Claire, à dire comment qualifier ça, des activités, des choses et autres. Il y a aujourd'hui un haut les masques. À 15h, c'est en train de commencer, 8-12 ans, c'est au musée, ce mercredi 30 novembre. Il y aura également des visites pour l'exposition spectaculaire Tout Public ce samedi à 11h, samedi 3 décembre.
Oui, on a un week-end particulièrement riche, parce que samedi, effectivement, il y a une conférence avec un musicien qui va jouer des instruments de musique d'inspiration antique et expliquer comment cela fonctionnait, hein, notamment l'équivalent des luths. Et puis par ailleurs, dimanche, en fait, on lance le lancement de notre jeu de société, l'année des cinq empereurs, avec toute une après-midi extrêmement ludique pour le public. Et évidemment, jusqu'au mois de juin, toute une programmation.
Allez, Yo Saturnalia, Raconte-Tapis, Escape Game, Luc Dussan, Partageons des Gustons. Nous en reparlerons. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je parlais des tarifs. Tarif plein, je crois, c'est
7 euros. Hein, en période d'exposition temporaire.
Il y a maintes tarifs réduits.
Gratuit pour les moins de 18 ans. Gratuit le premier dimanche du mois également.
Ah. C'est le cas ce dimanche 4 décembre.
Exactement, donc venez nombreux.
N'est-ce pas fait exprès? Certainement. Merci beaucoup. Nous allons nous quitter avec, je ne veux pas tenter des choses trop difficiles. Écoutons un titre extrait de la compilation des Incuptibles, non pas celle qui va ou qui vient de sortir, la numéro 16. Écoutons plutôt juste la précédente. C'est un titre qui est intéressant, French Lessons. C'est le Mickey Blanco, extrait de l'album Stay Close to the Music. Ça, c'est intéressant. Je crois que l'exposition commence. Il me semble que j'en avais tiré une photo quand je m'y suis rendu. La musique était très présente. Vous me l'avez dit tout à l'heure. On ne concevait pas de spectacle sans musique. Oui, hein,
oui,
c'est à peu près ça.
Oui, elle était présente pour l'ensemble du spectacle.
Merci beaucoup, Claire Iselin. Nous reverrons peut-être pour une exposition prochaine, parce que la prochaine est déjà prévue.
Oui, avec plaisir. La prochaine, en fait, vous allez voir, je vous spoil un peu.
Là. Oh là 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 là.
Mais en fait, elle va traiter du monde antique en Lego.
Oh, ben c'est très bien, avec un démarrage autour du festival, c'est ça, en octobre
prochain? Oui, en octobre, jusqu'au mois de juin suivant.
Auditeurs, auditrices, restez à l'écoute. Blues et Canu commence dans quelques instants. Oh là là, le nombre de minutes qu'on a mangé aujourd'hui, c'est absolument terrible. J'en suis confus. À venir ensuite à 17h, Mélomaniac. À 18h, Mayday. 19h, Canu Info. 20h, Idée Noire. Et puis les programmes de soirée, vous constaterez par vous-même. Écoutons pour nous quitter French Lessons et nous retrouvons mercredi prochain à Marché-Gare. Merci beaucoup, Claire Iselin. Encore désolé, Blues et Canu. À bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Au revoir.